Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue Politique et Parlementaire. Et cette semaine, dans l'émission, nous allons nous poser une question à laquelle nos invités vont répondre. Est-ce que le gouvernement a déjà perdu la bataille de l'opinion concernant la réforme des retraites? Vous le savez, c'est le débat qui agite le pays depuis plusieurs semaines, mais là, on rentre dans le vif du sujet depuis quelques jours et on a l'impression que le gouvernement a du mal à convaincre sur cette nouvelle réforme des retraites. Pour en parler avec nous dans la première partie de l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Michaud. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes politologue, directeur général adjoint d'Opinionway. Et donc, Frédéric Michaud, la première question, hein, c'est le thème de l'émission. Après, on reviendra peut-être en détail sur tel ou tel aspect de la réforme. Mais est-ce qu'on peut d'ores et déjà, est-ce qu'on a des signes dans vos enquêtes du fait que le gouvernement ne réussit pas à convaincre l'opinion et qu'il est en train de perdre la bataille de l'opinion publique?
Alors la question que vous posez est une question fondamentale. Elle dépasse même le strict cadre de cette réforme des retraites. Et pour y répondre, il faut déjà rappeler que l'opinion publique s'exprime de différentes façons. Alors évidemment, on pense spontanément aux sondages d'opinion, mais la manifestation, la grève, le boycott dans certains cas, ce sont d'autres expressions de l'opinion. L'opinion publique dans les sondages est qualifiée de passive. On va interroger des personnes, des Français, pour constituer un échantillon représentatif. Dans le cadre d'une manifestation ou d'une grève, évidemment, il y a un engagement qui est beaucoup plus fort et on parle d'opinion publique active. Et puis j'ajoute aussi qu'il y a évidemment le rôle des représentants du peuple, des élus de la République, les parlementaires, qui, eux aussi, représentent l'opinion publique et même plus largement le peuple. Et donc, quand on parle de cette idée de gagner la bataille de l'opinion publique, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par opinion publique. On va pas entrer dans ce débat parce que la définition de l'opinion publique nous emmènerait beaucoup trop loin, et puis c'est un sujet de controverse en sciences politiques. Mais en tout cas, si on se concentre uniquement sur les indicateurs d'opinion, c'est-à-dire ceux qui sont mesurés par les sondages d'opinion, il y a effectivement une opposition forte de la part des Français à cette réforme des retraites. Alors, là aussi, il faut être précis. Quand nous interrogeons les Français sur la nécessité de réformer les retraites en France, en leur demandant s'il est nécessaire ou pas de mener une réforme des retraites en France, 61% des Français, donc une large majorité, nous disent qu'une réforme est nécessaire. Donc il y a cette conscience que le système des retraites doit être rénové, réformé, pour pouvoir être pérennisé. Mais quand nous les interrogeons sur cette réforme en particulier, la réforme du gouvernement, là il y a une opposition qui est assez forte. Mais là aussi, cette opposition ne doit pas masquer des nuances. Quand on regarde dans le détail des mesures qui constituent le projet de réforme, en fait, les mesures qui sont issues de ce qu'on appelle les piliers justice et progrès de la réforme sont bien accueillies. Je pense par exemple à la prise en compte des années passées comme aidant auprès d'un parent âgé ou d'un enfant en situation de handicap. 89% des Français sont favorables. La possibilité pour les personnes ayant commencé à travailler avant 16 ans de partir à la retraite à 58 ans ou pour celles qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans qui pourraient partir à 60 ans, là aussi on a 88% des Français qui y sont favorables. Évidemment, la garantie d'une retraite minimale de 1 200 € par mois pour les retraités bénéficiant d'une retraite à taux plein suscite l'adhésion de plus de 85% de la population. Donc il y a des éléments dans cette réforme qui sont très largement acceptés par l'opinion publique. En revanche, il y a deux éléments qui sont eux issus de ce qu'on appelle techniquement dans la réforme le pilier équilibre, qui sont largement rejetés. Ce sont l'augmentation à 43 ans de cotisation pour avoir une retraite à taux plein, 38% seulement des Français y sont favorables, et le report de l'âge légal de départ à 64 ans, 32% seulement des Français y sont favorables. Donc vous voyez ces deux éléments, l'augmentation de l'âge et le report de l'âge à 64 ans, ce sont les deux éléments qui suscitent une majorité d'opposition dans l'opinion publique telle qu'elle est mesurée par les sondages et qui emporte un rejet global de la réforme, même si pour les Français, il est nécessaire de réformer les retraites en France.
Alors, il y a un autre élément qui apparaît dans le débat public, c'est l'impact sur les catégories des futurs retraités et en particulier les différences entre les hommes et les femmes. Et une étude d'impact indique que les femmes seront plus durement affectées par ces mesures puisqu'elles auront plus de mal à atteindre les 43 ans de cotisation pour des raisons qui sont multiples liées au monde professionnel ou aussi à la maternité. Et donc, du coup, le sentiment que une grande partie des retraités, qui en plus sont des femmes plus nombreuses que les hommes, la durée de vie étant, que finalement une grande partie des futurs retraités vont se retrouver pénalisés par cette réforme.
Oui, vous avez raison. Plus généralement, ça renvoie à la lisibilité de cette réforme. 61% des Français nous disent que cette réforme n'est pas claire. C'est une réforme extrêmement technique, qui comporte beaucoup de dispositions, beaucoup de cas particuliers, beaucoup de critères, et tout ça favorise une sorte de confusion générale. Cette idée s'accompagne, et peut-être qu'elle se nourrit de ce manque de clarté, de l'idée que c'est une réforme injuste. 65% des Français refuse, c'est-à-dire deux tiers, refuse l'idée que la réforme est juste. Et puis surtout, on a également l'idée que c'est une réforme qui est inefficace, qui ne permettra pas
de sauver le système.
De sauver exactement le système de retraite français. Ça aussi, c'est partagé par une très large majorité de la population. Nous sommes en fait dans un moment où il y a eu une première manifestation qui a été un succès de la part des syndicats. Il y a d'ailleurs un front uni qui renforce ce succès par opposition à un gouvernement qui, lui, commence à être un peu divisé. En tout cas, il y a des voix discordantes à la fois dans le gouvernement et dans la majorité parlementaire aussi.
Vraiment une majorité, d'ailleurs, ce qui complique la tâche.
Oui, voilà, il y a cet élément-là, mais nous pourrons y revenir. Mais en tout cas, il y a une asymétrie entre, d'un côté, un front syndical qui est uni, qui a emporté une première victoire, et puis de l'autre côté, un gouvernement qui ne parle pas d'une seule voix. Et on est là dans un temps un peu intermédiaire, avant l'ouverture des débats au Parlement, la semaine prochaine. Ce qui est assez surprenant dans cette période, c'est de voir que le gouvernement ne prend pas la parole sur d'autres sujets. Et donc, toute l'attention médiatico-politique se concentre sur cette réforme des retraites. On aurait pu s'attendre à ce que le gouvernement mette en avant d'autres sujets de communication pour essayer un petit peu de faire baisser la pression et l'attention médiatique sur ce sujet et engager le débat au Parlement dans les meilleures conditions. Mais c'est pas ce qu'il a choisi, peut-être parce qu'il craint des erreurs de communication, et on sait à quel point une petite phrase malheureuse, il y en a eu beaucoup dans le passé, sous le quinquennat précédent, et sous les quinquennats.
Surtout les quinquennats, finalement.
Oui, surtout les quinquennats. Et on sait à quel point une petite phrase, mais surtout dans une période comme ça de grande tension sociale, peut avoir un impact politique extrêmement fort. Donc le foie du gouvernement est celui d'une sorte d'abstinence médiatique, que quelques ministres qui sont habilités à parler, qui ont l'autorisation de parler, on ne parle que de ce sujet. Ça contribue à renforcer l'intensité médiatique de la réforme.
La focalisation sur ce débat.
Exactement.
Alors, est-ce que on peut aussi considérer que ce qui renforce la pression, la mobilisation et l'hostilité d'une partie de l'opinion, c'est lié aussi à un contexte particulièrement anxiogène et que finalement, on se dit que cette réforme-là rajoute des motifs d'inquiétude dans un moment où même si c'est jamais le bon moment pour faire des réformes impopulaires, mais enfin, il y a aussi des moments où ça peut être encore plus compliqué quand les gens sont déjà inquiets sur les fins de mois difficiles, le prix de l'énergie, des denrées alimentaires, etc., etc.
Oui, vous avez raison. Nous sommes depuis plusieurs mois maintenant dans une situation très particulière où les crises se cumulent. On a évidemment la toile de fond de la crise environnementale, la crise économique et évidemment la question de l'inflation, du coût de l'énergie, la question des carburants s'est un peu atténuée, mais ça reste quand même un sujet de préoccupation. Bref, toutes les inquiétudes économiques sont très vives et cette réforme prend place dans ce contexte très particulier, avec un pessimisme de l'opinion publique qui est très important, des projections dans l'avenir qui sont très négatives, y compris dans l'avenir à court terme, des difficultés pour les Français à boucler leur fin de mois, des comportements qui se transforment, des comportements d'auto-restriction dans les dépenses, dans la consommation d'une manière générale. Et effectivement, il n'y a pas de contexte parfait pour faire une réforme, mais disons que cette situation très particulière sans doute renforce les craintes qui sont déjà très présentes dans la perception générale des conséquences de cette réforme. Puis il y a l'idée aussi, qui est toujours une idée importante en France, que cette réforme va provoquer une crise sociale importante dans le pays. Mmh. Ça, c'est un point qui est partagé par 80% de la population.
C'est une crainte.
C'est une crainte, c'est quelque chose qui est très enraciné. C'est une perception qui est très profonde, elle est à la fois très partagée mais très intense. Et donc on est là face à l'idée que cette réforme va peut-être amplifier des tensions, des difficultés qui sont déjà très aiguës.
Alors peut-être une dernière question, puisqu'on arrive plutôt vers la fin de cette première partie de l'émission. Est-ce que les questions que vous posez, dans les réponses des Français, il y a des pistes de modification du contenu de ce projet que vous avez détaillé, qui pourrait redonner un petit peu d'oxygène au gouvernement qui semble pour l'instant soumis à des pressions extrêmement fortes dans la rue, mais aussi dans sa majorité au Parlement. Est-ce qu'il y a des mesures ou des ajustements qui permettraient peut-être au gouvernement de reprendre la main, quoi, finalement ?
Alors, en termes de mesures, je ne peux pas vous répondre, puisque là, c'est maintenant le travail parlementaire qui va devoir faire des propositions.
Non, mais on pense pas un peu au retour de la pénibilité ou des... Il y avait des choses qui, dans l'opinion, avaient une certaine résonance, la fin des régimes spéciaux, puisque là, on a remis au cause aussi cette hypothèse.
Oui, la fin des régimes spéciaux, alors là, pour le coup, ça fait partie des points de la réforme qui sont très largement acceptés par l'opinion publique. On a plus de deux tiers des Français qui y sont favorables. Pour les nouveaux entrants dans les emplois concernés, ça, c'est l'aspiration égalitaire du peuple français. Plus généralement, je crois qu'au-delà des mesures, il y a aussi une question d'attitude. On voit bien qu'il y a quand même un problème de pédagogie autour de cette réforme et que l'objectif de la réforme tel qu'il est présenté, c'est-à-dire sauver l'équilibre financier, n'est pas audible d'une certaine manière. Après le quoi qu'il en coûte, après la politique d'échec, l'idée qu'on n'a plus d'argent pour pouvoir sauver le système des retraites, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable par une partie de l'opinion publique. Et puis, il y a aussi une posture de communication, donc plus de pédagogie. Je crois que, du point de vue du gouvernement, la volonté de dialogue d'enrichissement du texte tire les leçons des réformes précédentes ou des échecs des réformes précédentes. On se rappelle tous de l'intransigeance, de l'inflexibilité du droit dans ses bottes d'Alain Juppé. Ça avait été un élément important de l'échec de la réforme de 1995. Mais au-delà de cette posture de communication, il va falloir, comme vous l'avez dit, donner des mesures concrètes pour rééquilibrer ces deux éléments de la réforme. Hein. À nouveau, l'augmentation à 43 ans de cotisation et le report de l'âge légal, pour les rééquilibrer par des éléments qui soient plus positifs, en tout cas reçus comme tels par les Français qui sont les plus directement concernés par cette réforme.
Merci beaucoup Frédéric Michaud pour avoir répondu à nos questions dans cette première partie de l'émission où nous nous interrogeons sur la réforme des retraites et comment elle est perçue dans l'opinion et cette bataille qui s'est engagée pour convaincre et les difficultés rencontrées par le gouvernement. Je rappelle que vous êtes politologue, directeur général adjoint d'Opinionway et donc je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
À très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?» avec la revue politique et parlementaire, notre partenaire. J'ai le plaisir, dans cette deuxième partie d'émission toujours consacrée à la réforme des retraites, d'accueillir Frédéric Dabi. Bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Je rappelle que vous êtes politologue, directeur général d'opinion groupe IFOP, spécialiste de la sociologie politique et des comportements électoraux, entre autres. Vous avez également fait un excellent ouvrage sur la jeunesse, la fracture, dont on avait eu l'occasion de parler sur cette antenne. Et aujourd'hui, on va plutôt vous interroger sur la bataille de l'opinion que livre le gouvernement à propos de cette réforme dont les grandes lignes ont été annoncées il y a quelques jours et qui aujourd'hui fait l'objet d'énormément de commentaires. Il y a déjà eu aussi des mouvements sociaux. Et donc, nous voudrions vous interroger, Frédéric, sur cette bataille de l'opinion. Et est-ce que le gouvernement n'est pas en train de la perdre ?
Alors oui et non, c'est vrai que cette bataille, Alexis, est très mal engagée. Hein. Notre dernière enquête à IFOP fiduciale pour Sud Radio donne seulement 28% de Français qui sont favorables à cette réforme. C'est d'ailleurs en baisse par rapport au jour où on avait testé les annonces de la Première ministre Elisabeth Borne. Ce qui est frappant, c'est que c'est minoritaire dans toutes les catégories des populations, sauf les personnes âgées et l'électorat d'Emmanuel Macron. Même chez les sympathisants LR, c'est quasiment du 1 sur 2. Et puis, ce qui est extrêmement spectaculaire, c'est le fait que, alors que quelques dispositions de la réforme sont plutôt bien accueillies, les pensions à 1 200 €, la réforme des régimes spéciaux, la mise en place d'un index de pénibilité, on voit très bien que le point de focalisation des Français sur cette réforme, c'est ce passage de 62 à 64 ans. Et de ce point de vue-là, les Français voient cela comme la remise en cause d'un acquis social, comme une dépossession compte tenu des nouvelles représentations sur la retraite, comme une nouvelle vie, un nouvel horizon. Et ça, pour l'instant, la bataille de l'opinion se perd parce que les Français n'évaluent pas peut-être cette réforme globalement, mais sont focalisés sur la barrière d'âge.
Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi, compte tenu de la communication du gouvernement qui a voulu vraiment attendre le dernier moment pour livrer les grandes mesures, qui prépare la bataille au Parlement, mais où finalement on entend peu de ministres, la parole est quand même extrêmement contrôlée, maîtrisée, et du coup, bien, ça crée aussi peut-être un sentiment que le gouvernement n'assume pas complètement le contenu de cette réforme.
Je partage complètement votre point de vue. C'est vrai que la communication n'est pas très réussie. Qu'est-ce que l'on voit dans nos enquêtes depuis une vingtaine d'années ? Qu'est-ce que c'est qu'une réforme réussie ? Ou plutôt, qu'est-ce qui fait qu'une réforme est réussie ? Moi, je vois 4 points. Un cap ou une finalité claire de la réforme. L'idée que la réforme est juste avec des efforts demandés aux Français réciproques. L'idée troisièmement, que l'État donne l'exemple, et enfin, l'idée que la réforme est incarnée. Et sur chacun de ces quatre points, les choses, pour l'instant, ça peut changer, pêchent. La finalité de la réforme est très récente. Pendant longtemps, on disait « faisons cette réforme pour avoir des marges de manœuvre budgétaires sur l'éducation et la santé ». Là, on est revenu depuis les voeux du président sur « il faut sauver le soldat retraite », c'est-à-dire « cette réforme est faite pour sauver le système ». Un peu comme en 2010, mais ça avait été martelé en 2010 par François Fillon et Éric Woerth dès le début. Là, il y a eu un changement de pied. Que la réforme soit juste, clairement, et c'est là où le bas blesse, les Français ont le sentiment de manière écrasante, et pas seulement des sympathisants de gauche ou des sympathisants du RN ou des gens anti-gouvernement, que cette réforme n'est pas juste. Ce qui s'est passé il y a quelques jours sur les inégalités en termes de genre, femmes-hommes, sont pas particulièrement dévastatrice. Et puis, est-ce que cette réforme est incarnée? Vous le disiez, il y a un déficit d'incarnation. Olivier Dussopt explique bien les choses, mais il est peu connu des Français. La Première ministre reste très touchée par son association au 49.3 et le Président, et il a peut-être raison, n'est pas sur une communication. Tous azimuts, tout ça fait que la bataille de l'opinion, je ne dirais pas qu'elle est perdue, mais elle est difficilement, pour l'instant, engagée.
Alors, il y a quand même dans toutes les catégories de Français une grande méfiance, mais on a vu émerger dans la dernière période, notamment un débat sur l'impact de la réforme. Alors on le sait, hein, il y a les 43 ans de cotisation qui ne sont pas souhaités par une majorité de Français, de même que le passage à 64 ans, et en particulier les conséquences pour les femmes. Et c'est une étude d'impact du projet de loi qui le montre, plus important que sur les hommes. Et ça tombe très mal pour le gouvernement parce que du coup, c'est elles les plus nombreuses et le plus longtemps qui vont passer. Elles ont des retraites plus longues que les hommes puisque l'espérance de vie est plus importante et du coup, elles sont aussi plus fragilisées.
Oui, vous avez tout dit, c'est particulièrement, j'en parlais un petit peu également avant votre propos, Alexis, c'est particulièrement dévastateur. Les Français ont la passion de l'égalité, la haine des inégalités. C'est vrai que là, de ce point de vue-là, les inégalités de genre, c'est particulièrement gênant dans un contexte aussi où on a vu l'enquête du Haut Commissariat pour l'égalité d'hier de mes confrères de Via Voice. On voit que la situation des femmes reste compliquée en termes d'inégalité salariale, en termes de sexisme. Si en plus il y a une double peine avec une cotisation plus longue pour les retraites, ça ne passera pas. Donc d'un côté, il y a des éléments qui font qu'on n'est pas du tout dans la mécanique, si je puis dire, dans la logique d'opinion de 2010, où, rappelez-vous, on avait une petite majorité de Français, entre 48 et 52% selon les enquêtes, qui disaient accepter un effort pour passer de 60 à 62 ans. Ils nous disaient on ne peut pas baisser les pensions, on ne peut pas augmenter les cotisations salariales compte tenu du pouvoir d'achat. En 2010, il y avait une vraie crise économique avec beaucoup de chômage. Il ne reste que cet effort raisonnable. Cette logique n'existe pas, je pense, parce qu'à 64 ans, on se rapproche trop de 65 ans, qui était la borne absolument repoussoire.
Alors, finalement, on a l'impression que le gouvernement a aussi est fortement évolué puisque au début du quinquennat, enfin à la fin du quinquennat précédent, il était question de faire une réforme des retraites, mais sans toucher à ce qu'on appelle les paramètres, hein, en particulier l'allongement de la durée de cotisation et le départ à la retraite. Et là, sans vraiment d'ailleurs, comme vous l'avez expliqué, donner d'explications précises, on est repassé sur quelque chose qui apparaît au fond comme une réforme d'équilibre avec la brutalité que ça implique, puisque d'un seul coup, les gens voient se rallonger la perspective de leur départ en retraite.
Ben, vous avez tout à fait raison. C'est en ça que l'opinion publique est particulièrement échaudée. On a eu plusieurs discours de la part du gouvernement. On est passé de la réforme systémique de 2019 à une réforme plus paramétrique. Et c'est vrai qu'on retrouve complètement la logique de 2010, c'est-à-dire un allongement de la durée de cotisation et surtout un âge légal qui passe de 60 à 62, en 2002, 62 à 64 en 2023. C'est vrai également que les Français ont l'impression qu'à chaque réforme des retraites, si j'ai été un peu trivial, on leur fait le coup. on est sur une logique de der-der-der, on leur dit c'est la dernière réforme pour sauver le système, et on revient dessus quelques années après tout ça. Mine échaude l'opinion, rend moins claire et moins digne de confiance la parole publique, et c'est vrai que la défiance vis-à-vis des politiques, l'enchaînement des crises que la France connaît depuis les Gilets jaunes et le Covid, tout ça érode la confiance dans le gouvernement et dans sa capacité à réformer le système, alors même que les Français veulent réformer les retraites, alors même que les acteurs contre les retraites, contre la réforme, ne sont pas particulièrement vaillants, la France insoumise, par exemple, en tête. Et voilà, on est sur des logiques d'opinion très différentes. Rejet de la réforme, même si je ne l'ai pas dit, mais ça vaut le coup que nos auditeurs aient ça en tête, les Français ont également un niveau très élevé, plus fort qu'en 2010. Plus fort qu'en 2019, intériorisé que le gouvernement ne reculerait pas. Donc il y a ces deux logiques d'opinion qui peuvent produire des effets pervers, une colère du pays, une posture d'exit ou un sentiment de repli.
Et c'est peut-être justement parce que les Français ont le sentiment que le gouvernement ne veut pas reculer, qu'il y a la crainte d'une crise sociale majeure qui viendrait s'ajouter à la crise environnementale, à la crise de l'inflation, au contexte anxiogène de la guerre en Ukraine. Et donc, ça viendrait un peu encore alourdir le climat qui est déjà un peu pesant.
Oui, vous avez raison. Alors, ne faisons pas les Madame Irma en disant le printemps sera chaud, l'été sera fait.
Non, mais il y avait beaucoup compliqué. De monde dans les rues pour la première journée de manifestation. C'est un indicateur fiable.
Vous avez raison, c'est un indicateur fiable, avec en plus une réforme un peu retour vers le futur, c'est-à-dire une manifestation où on avait le sentiment que comme avant, il n'y avait pas de violence, comme avant, on pouvait descendre dans la rue. Ça donne peut-être beaucoup d'espoir aux syndicats pour le 31 janvier, ce que ça va faire reculer le gouvernement. Mais c'est vrai que là, en fait, Alexis, l'agenda médiatique et vous-même et moi-même, on ne parle que des retraites, mais le principal sujet d'inquiétude, de focalisation des Français, le couple pouvoir d'achat inflation, n'a pas disparu. Et c'est vrai que si la réforme passe malgré tout, s'il y a une rancœur de la part du pays, des étincelles pourraient mettre le feu aux poudres. Une crise majeure sur le pouvoir d'achat, une inflation qui ne serait pas contenue, les propos de la grande distribution sur l'augmentation nouvelle au printemps des denrées alimentaires ne doivent pas nous rassurer. Ça peut être une étincelle environnementale, les zones à faible émission dans les grandes métropoles qui inquiètent et qui excluent beaucoup de Français. Tout ça fait qu'il y a un contexte peut-être, je dis bien peut-être, de gilet jaunisation qui pourrait, après cette réforme des retraites, tendre encore plus ces choses dans le pays.
Est-ce que aussi la parole du gouvernement n'est pas rendue plus difficile à entendre compte tenu de ce que nous avons vécu au moment de la crise du Covid? Il y a eu le quoi qu'il en coûte. Et donc le discours sur l'urgence, il faut trouver de l'argent et demander un effort supplémentaire aux Français, c'est pas plus difficile à faire entendre après cette crise Covid, et aussi avec le sentiment pour les Français que c'est toujours les plus modestes, les plus précaires, et on a parlé tout à l'heure de la situation des inégalités hommes-femmes, qui vont finalement devoir faire encore des efforts.
Alors je partage complètement votre analyse, notamment sur le rapport à la dette. En 2010, qu'est-ce qui se passait en 2010? On sortait d'une campagne présidentielle où la dette avait été présente dans le discours de différents candidats, Nicolas Sarkozy et surtout François Bayrou, un Premier ministre qui dit qu'il est à la tête d'un État en situation de faillite, une crise économique très forte qui fait que la sensibilité à la question de la dette était très forte. Ce n'était pas le sujet majeur, bien sûr, mais ça existait. Là, vous avez raison, Alexis, effet du quoi qu'il en coûte, effet d'une forme d'argent magique dans nos enquêtes, notre dernière exode fiduciaire pour LCI, on voit que la question de la dette est complètement reléguée dans les préoccupations des Français. Alors, un peu moins chez les sympathisants de droite, un peu moins chez les personnes âgées, un peu moins dans l'électorat macronien, mais l'argument classique « sauvons le système parce qu'il va s'écrouler » ne tient pas. On l'a très bien vu dans les débats sur cette réforme. Ça rend encore plus, comme vous le dites, l'apparition, plutôt la réactivation d'un clivage vertical, gros-petit, sur le mode « il y a que les petits qui vont devoir faire des efforts, les petits sont des femmes, les petits sont des catégories sociale populaire, pendant que l'État ne donnera pas d'exemple et que cette réforme n'est pas si urgente que cela. C'est là aussi un point de fragilisation par rapport aux réformes passées.
Alors, on a souvent dans les discours des quelques ministres quand même qui sont un petit peu délégués, on pense à Olivier Dussopt, mais qui n'est pas un poids lourd du gouvernement par rapport à d'autres, qui est moins connu en tout cas, cette notion de pédagogie. Mais finalement, comment convaincre des gens qui globalement connaissent les paramètres de la réforme et n'en veulent pas, tout simplement, en majorité?
Oui, c'est vrai que l'argument de la pédagogie est un argument limité sur le mode « les Français ne savent pas ce qu'il y a dans la réforme ».
Je crois qu'ils le savent maintenant.
On est d'accord. En plus, ils apprécient, comme je vous disais au début de notre échange, beaucoup d'aspects de la réforme, mais il y a des choses qui ne passent pas. Le sentiment d'injustice sur quelques modalités, ce passage de 62 à 64 ans, et il y a une évolution spectaculaire, complètement antagoniste à celle de 2010. En 2010, l'adhésion à la réforme a progressé, alors même que vous vous en souvenez, Alexis, et je crois que vous êtes parti des manifestants, si je puis dire, on avait beaucoup de monde dans la rue, énormément, c'est monté à 3 millions parce qu'il y a eu des journées de manifestation qui ont eu lieu le samedi. Là, au fur et à mesure que les Français entrent dans la connaissance de la réforme, l'adhésion recule.
Alors, dernière question, Frédéric, puisqu'après, on va devoir vous libérer. Ça concerne finalement les éléments de sortie de crise, quoi. Enfin, on va dire qu'on n'est pas encore certain que le bras de fer sera aussi fort que ce qu'on avait vécu, par exemple, en 1995, mais on n'en sait rien. Quelles sont, à votre avis, les pistes pour le gouvernement? Est-ce qu'il a des marges de manœuvre? Ou est-ce que, comme certains indicateurs semblent laisser penser, il va s'arc-bouter, essayer d'obtenir une majorité, ce n'est pas acquis, à l'Assemblée nationale, et finalement passer en force?
Votre question est difficile parce qu'elle est très prospective et je ne connais pas l'avenir et vous non plus. C'est vrai qu'il y a un décalage entre la difficulté d'opinion d'un côté avec également un mouvement social très suivi et les choses au Parlement qui pourraient être plus simples que prévu. Si tout le groupe Renaissance, Modem, Horizon vote pour avec, on va dire, un tiers ou un quart de députés LR ou une abstention des députés LR, la réforme passera. Mais quelles traces vont-elles laisser en termes de rancœur dans l'opinion publique, et bien sûr, le gouvernement ne pourra pas ne pas bouger sur certains aspects, notamment ce qui relève de l'injustice de cette réforme.
Merci beaucoup Frédéric Dabi pour avoir répondu à nos questions. On rappelle d'abord que vous êtes un invité régulier des émissions et qu'on est toujours ravis de vous avoir avec nous. Vous êtes directeur général d'Opinion, groupe IFOP, et puis politologue, donc on aura l'occasion de vous réentendre
avec grand plaisir,
sur d'autres sujets, puisque vous êtes très curieux et très présent sur tous les sujets qui concernent évidemment la vie politique nationale. À très bientôt.
Merci Alexis. Très bientôt, au revoir.
Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.